On est dans le cours Connaître Dieu, qui est donc fondé, basé sur le livre de G.I. Packer du même nom, Knowing God, dans sa version originale. Et puis, nous sommes à la leçon 12, mais juste pour bien mêler tout le monde, dans le livre, nous sommes au chapitre 18, d'accord? Mais on est dans la leçon 12 dans le cours ici, parce que parfois, on a résumé, synthétisé, mis plusieurs chapitres du livre dans la même leçon. Dans le cadre de notre cours. Il nous reste trois cours, trois rencontres, d'accord? Alors, ce matin, l'Évangile, la semaine prochaine, Jésus-Christ, puis ensuite de ça, la marche chrétienne. Et pendant le mois de juin, c'est un temps de prière, donc tous les dimanches matin, de 9h à 10h, pendant un mois, on convoque toute l'Assemblée à venir dans la prière. Alors, on va aller ensemble tout de suite dans un mot de prière. Eh bien, Père éternel, Je veux, Père, te remercier pour cette matinée spéciale, cette journée spéciale où on veut souligner dans nos cœurs et dans nos actions, Seigneur, dans nos paroles, on veut souligner les mamans. On te demande de les bénir aujourd'hui, Seigneur. On te prie, Père, de venir nous accompagner dans cette leçon super importante, vraiment au cœur de la révélation de ta personne, de qui tu es, Seigneur. Et on te demande, Père, de mettre ces choses très claires dans nos cœurs afin que ce soit vraiment une ressource pour notre édification, pour notre marche chrétienne de tous les jours, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On arrive dans l'Évangile et on pourrait penser, a priori, que faire une leçon sur l'Évangile, ça n'a pas vraiment rapport avec connaître Dieu, mais en même temps, ça a complètement rapport, n'est-ce pas? Si on veut connaître Dieu, comprendre qui est Dieu dans sa personne, l'élément central de la révélation de la personne de Dieu, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est là qu'on comprend qui il est dans tout son amour, dans toute sa grâce, mais aussi dans toute sa justice, dans toute sa sainteté. Et donc, l'Évangile est au cœur de la révélation de la personne de Dieu. Au cours des dernières semaines, on a mis l'accent beaucoup sur des attributs, des qualités de Dieu qui sont troublantes, qui sont difficiles à accepter parce qu'elles sont effrayantes, n'est-ce pas, lorsqu'on parlait de la justice, de la sainteté, de la colère, du jugement de Dieu. Donc, on a mis l'accent sur plusieurs éléments. On avait parlé de l'amour de Dieu davantage au début du cours, mais dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de ces aspects-là de la personne de Dieu. Et ce matin, on parle de l'Évangile. Alors, on arrive à l'endroit où on pourrait dire pratiquement tous les attributs, toutes les qualités de la personne de Dieu viennent se rencontrer, d'accord? Parce que c'est à la croix, c'est au sacrifice de Jésus-Christ qu'on va trouver à la fois l'amour, la sainteté, la justice, la colère, le jugement, le châtiment de Dieu. C'est là qu'on trouve tout ça, à la croix, dans la personne de son Fils. Un premier passage biblique dans 1 Jean 4, les versets 8 à 10, vous l'avez dans le haut de vos notes. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans ce verset-là, Jean est en train de nous dire que c'est impossible de vraiment comprendre l'amour de Dieu sans comprendre le sacrifice à la croix. Maintenant, lorsque vous parlez de Dieu avec des gens, puis vous leur dites que vous êtes croyant, ça va jusque-là, les gens commencent à poser des questions, puis à un certain moment donné, vous arrivez à la croix, l'idée que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, et c'est là que ça achoppe souvent, n'est-ce pas? Ils vont dire, mais ce Dieu-là, ça ne se peut pas un Dieu qui sacrifie son Fils. C'est impossible de vraiment saisir l'amour de Dieu pour les êtres humains, sans me rendre là. Les êtres humains voudraient s'arrêter au fait que Dieu a, c'est le printemps, les tulipes sont en train de sortir, Dieu fait pousser des fleurs. On voit la beauté de l'amour de Dieu. Dieu a créé les mamans. Les mamans, c'est l'expression de l'amour de Dieu, souvent dans nos vies, d'accord? C'est elle qui nous donne la vie. Et donc, OK, ça nous parle de Dieu. Toutes ces belles choses-là nous parlent de Dieu. Mais que la croix nous parle de Dieu, nous parle de l'amour de Dieu, wow! Là, ça, c'est troublant. Là, ça, c'est inacceptable. Alors, ce verset-là nous dit, Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, lorsqu'on pense à cette notion-là de victime expiatoire, les gens ont toutes sortes de références. Si je comprends bien, on n'aura pas de projection maintenant. Hein? C'est ça? OK. Les gens ont toutes sortes de références. Laissez-moi vous lire juste un petit extrait d'un récit des divinités grecques. Vous l'avez dans vos notes, d'accord? Paris ayant enlevé Hélène de Troie, le corps expéditionnaire grec s'embarqua pour tenter de le retrouver. Mais des vents contraires immobilisèrent leur flotte. Le général grec Agamemnon envoya alors chercher sa fille et l'offrit solennellement en sacrifice pour se concilier les dieux, évidemment hostiles. Cette opération s'avéra payante car les vents d'ouest se remirent à souffler et la flotte grecque put atteindre Troie sans autre difficulté. Alors, on a un contexte où il y a un sacrifice humain qui est fait aux dieux, aux divinités. Et les gens, dans notre société, lorsqu'ils pensent à cette idée d'un sacrifice, tout ça, d'un dieu qui demande un sacrifice, ont ce genre de référence-là dans leur esprit. Bon, dans le cas des divinités grecques, c'était pas une question de justice, c'était une question d'attirer les faveurs, c'était pas une question de payer pour le mal afin que la sainteté soit satisfaite. C'était une question d'avoir les faveurs d'un Dieu capricieux qui dit « Ah, mais je ne sais pas si je veux t'aider, je vais peut-être t'aider, on va voir. » Puis tu prends ta fille, tu la sacrifies. « Ouais, OK, on va faire tourner les vents. » D'accord? Lorsqu'on arrive au Dieu de la Bible, ce n'est pas ce Dieu-là qui est présenté. Ce n'est pas un Dieu capricieux, un Dieu boudeur, un Dieu qui est lui-même centré sur lui-même, puis en train de bouder l'humanité, puis qui voudrait que l'humanité offre quelques sacrifices. Puis en fait, le fait que lui-même va offrir le sacrifice en est la plus grande preuve, n'est-ce pas? Mais on a un Dieu vraiment différent qui nous apparaît. Le deuxième paragraphe, « Tous ces dieux sont d'humeur très changeante, ils se fâchent pour un rien, se montrent jaloux des attentions que les hommes accordent à d'autres dieux et se vengent en manipulant les circonstances au détriment de ceux à qui ils en veulent. La seule façon de se sortir de ce mauvais pas est alors de leur faire une offrande pour les apaiser et se les concilier. » Je pense que les gens en général, c'est comme ça qu'ils voient Dieu. Et pour eux, ils se disent, il y a deux manières de voir Dieu. Celle qui est acceptable pour moi, c'est de voir Dieu comme un être fondamentalement bon, dans une vision de la bonté qui fait qu'il comprend, il a compassion de toutes nos faiblesses, puis finalement, tous les péchés qu'on peut faire, il va juste les considérer comme des faiblesses. Et c'est comme ça que les gens veulent voir Dieu, parce que s'ils cherchent à le voir autrement, ils vont le voir comme un Dieu qu'il faut constamment essayer de satisfaire et qui est capricieux, qui ne sera peut-être jamais satisfait. Puis en fait, c'est ce qu'on trouve dans la majorité des religions. Il y avait une exposition sur l'Égypte il y a quelques années au Musée des Beaux-Arts, et puis c'était vraiment frappant de voir leur vision, leur conception du jugement divin. C'est vraiment la notion d'une balance. Et donc, on trouve cette idée-là, où c'est ce qu'on trouvait dans tout le système, la pensée catholique pour le salut, c'est que je dois m'assurer d'ajouter des bonnes œuvres, parce que qui sait si j'en ai fait assez? D'accord? Et donc, il y a une espèce d'idée où tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas y arriver parce qu'il faut que tu satisfasses quelque chose. Et les gens, en général, voient Dieu comme ça. Donc, ils ne sont pas intéressés à un Dieu semblable. Ils vont dire, oui, mais je vais plutôt me tourner vers le Dieu que moi, je vais concevoir, le Dieu que moi, je vais imaginer. Si Dieu existe, là, il faut qu'il soit bon. Seulement bon. Puis, il fait juste voir toutes mes faiblesses, tous mes péchés comme des moments de faiblesse, puis il passe par-dessus tout ça. Autrement, je me retrouve avec un Dieu capricieux. D'accord? Et donc, cette ouverture-là à l'idée de dire que non, il y a un sacrifice qui est nécessaire pour satisfaire une justice, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, à accepter pour la société en général. La Bible elle, nous amène bien loin du monde des religions païennes. D'emblée, la Bible condamne le paganisme, monstrueuse déformation de la vérité, À la place d'une clique de Dieu trop visiblement fait à l'image de l'homme et dont le comportement rappelle celui des stars hollywoodiennes, la Bible nous propose le Créateur, unique, tout-puissant, le seul vrai Dieu, la source de toute bonté et de toute vérité. La dernière ligne, la notion de propitiation, c'est-à-dire l'offrande faite à Dieu pour détourner sa colère, est pourtant présente tout au long de la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste nous expliquer ça, qui veut comme tentativement nous dire, ouais, mais pourquoi on va trouver cette idée-là d'une propitiation si Dieu n'est pas comme les divinités grecques? Juste une réponse rapide, Gérard. Oui. OK, c'est bon. Donc, c'est une offrande pour nous amener dans sa présence. D'accord? Moi, je vais le dire comme ça, là. C'est une offrande qui sert à nous justifier pour nous amener dans sa présence. On va le voir ensemble. Mais c'est quand même vraiment important de saisir que cette idée-là de propitiation, c'est quelque chose de difficile à accepter pour notre société. Est-ce que vous comprenez le terme propitiation, victime propitiatoire? C'est une victime qui rend Dieu propice envers nous. Dieu apte à nous accueillir, Dieu apte à nous laisser entrer dans sa présence, d'accord? Et donc, cette idée-là de victime propitiatoire est présente dans toutes sortes de religions, toutes sortes de pensées. Et il faut bien saisir l'idée qu'on a dans les Écritures pour pouvoir expliquer aux gens et nous-mêmes profiter de cette grâce-là pour connaître Dieu, d'accord? On n'est pas avec les dieux païens qui sont capricieux, mais on est définitivement avec un Dieu qui demande un sacrifice, d'accord, pour que justice soit faite. Alors, on va juste lire quelques passages rapidement. Dans le premier paragraphe en haut, là, vous avez un passage qui est inséré dans Romains 3, 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour relever un petit peu ce que Gérard mentionnait, tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans la vision que les gens vont souvent avoir de Dieu, c'est qu'on est privé de la faveur de Dieu. C'est pas ça l'enjeu véritable. C'est pas ça l'enjeu véritable. C'est que Dieu est le créateur de toutes choses et le bonheur se trouve à être dans la présence de sa gloire. Et ce qui domine tout ce que Dieu va faire, c'est cette réalité-là qu'il est saint, glorieux, pur et parfait. Et donc, à cause du péché, on est privé de sa gloire, on est privé de sa présence, d'accord? Gardez ça à l'esprit parce que tout à l'heure, on va essayer de comprendre, ça veut dire quoi être damné? Puis en réalité, à la croix, quand les gens vous disent, ouais, mais c'est quoi d'après toi l'enfer? Gardez ça à l'esprit, là. À la croix, on a à peu près toute la réponse, d'accord? Mais dans le passage ici, ce que Paul est en train de dire, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, donc le rachat qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. » Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui est à la foi, qui a la foi en Jésus. Et donc la question pour Paul, ce n'est pas est-ce qu'on est en présence d'un Dieu capricieux? Non, Paul est en train de dire Dieu est la perfection même. Dieu est la justice, Dieu est la sainteté. Dieu est pur. Comment est-ce que Dieu peut justifier et accueillir l'impur? Et donc, il y a ce dilemme-là qui se présente à Dieu. C'était là dans ses dessins, là, on s'entend. Là. C'était là, il savait de toute éternité. Mais il y a ce dilemme-là qui est présent devant l'humanité. Comment est-ce qu'il va pouvoir déclarer juste, justifier celui qui est injuste, celui qui est pécheur? Quelques passages rapidement, Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et donc, Christ vient, s'incarne, afin d'être comme nous, pour pouvoir nous représenter dans ce sacrifice-là. Je suis conscient, là, je vois vos visages, conscient que vous savez pas mal tout ça. Il y a un petit peu de révision. Tout à l'heure, on va aller voir quelques éléments nouveaux pour vous, d'accord? 1 Jean 2, 1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 8 à 10. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions pour lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, il vient expier nos fautes. Quelle place la propitiation tient-elle dans votre christianisme? Dans le Nouveau Testament, elle occupe la place centrale. Alors, de plus en plus, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir de l'ouverture, puis vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire qu'ils sont chrétiens. D'accord? Peut-être qu'ils le sont, mais l'emphase dans ce qu'ils, lorsqu'ils parlent de Jésus va être moins sur le sacrifice de Jésus-Christ, puis plus sur le modèle qu'il a été. D'accord? Donc, de plus en plus, vous allez trouver cette idée-là d'un Jésus qui est un sage, d'un Jésus qui est un guide, d'un Jésus qui est un sage, un guide parmi les sages. D'accord? Maintenant, ce n'est pas ça, premièrement, que les Écritures nous disent sur Jésus. Oui, il est tout ça, il est le sage même, il est la sagesse, il est la voix de la sagesse de Dieu même. Mais ce n'est pas premièrement ça que les Écritures nous disent sur Jésus. C'est cette idée qu'il vient pour être victime expiatoire, victime propitiatoire. Donc, il vient payer pour nos fautes. Il vient disposer Dieu favorablement à notre égard. Dans le Nouveau Testament, elle occupe la place centrale. Je suis au bas de la page 2. C'est en fonction d'elle que s'explique l'amour de Dieu, l'incarnation du Fils, la croix, l'intercession du Christ dans les lieux célestes et le chemin du salut. Encore une fois, je suis conscient, là, je parle à des gens qui savent ces choses-là, mais ces choses-là doivent être absolument claires. Nous observons les anciens depuis à peu près 4-5 ans avec les gens qui viennent de d'autres assemblées, d'accord? Puis là, sentez-vous pas jugé, prenez-le pour évaluer si ce qu'on vous enseignait était solide, d'accord? Mais on l'observe. Des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui viennent aussi d'autres nations, d'autres peuples, d'autres pays. Et ces éléments-là ne sont pas tout à fait centraux dans leur compréhension, centrales dans leur compréhension du ministère et de la personne de Jésus-Christ. Je vous le dis, les anciens, on s'en parle régulièrement. On fait des entrevues pour les gens lorsqu'ils veulent devenir membres. Robert donne le cours, Herman donne le cours de la foi chrétienne expliquée. On jase ensemble tout ça. Et ce n'est pas toujours clair, cette idée-là. Ça doit être absolument central à votre vision, votre compréhension du christianisme. Sans saisir cela de manière ferme et claire, tous ces éléments-là, que ce soit l'amour de Dieu, l'incarnation du Fils, la croix, l'intercession du Christ dans les lieux célestes, le chemin du salut, ces choses-là ne peuvent pas être claires si cette notion-là n'est pas claire, si ce n'est pas central. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes tous sous la colère de Dieu. Telle est donc la situation de l'homme, en dehors de l'Évangile, qu'il en soit conscient ou non, ce qui régit en définitive sa vie, c'est la colère agissante de Dieu. Alors, qu'est-ce que M. Packer est en train de nous rappeler ici? C'est que, au quotidien, probablement que ce serait insupportable, d'accord? Mais au quotidien, lorsqu'on se lève le matin, mais qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce pour le soleil. Ce matin, c'est ça que j'ai fait. J'ai ouvert les portes patio, les chiens sont sortis. J'ai reçu la brise, c'était tellement agréable. C'était wow! Je ne me suis pas levé ce matin en disant, étable, tout ce monde-là qui est sous la colère de Dieu. Je ne me suis pas levé ce matin en lisant quelques articles dans la presse, puis en regardant des articles sur la fête des mères, puis les familles qui, bon, c'est un peu n'importe quoi, tout ça, puis en me disant, toutes ces mamans-là qui aiment leurs enfants, mais qui sont sous la colère de Dieu. Voyez-vous, je ne me suis pas levé comme ça. On ne vit pas comme ça tous les jours. Mais la réalité, c'est que le principe le principe directeur actuellement. Lorsque Dieu regarde l'humanité, c'est qu'elle est sous sa colère. Il y a ce qu'on appelle la grâce commune. Donc, Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu donne de la nourriture. Dieu nous donne la vie. Dieu manifeste sa patience. L'être humain ressemble encore à Dieu puisqu'il a été créé à Dieu. Et donc, parfois, pose des gestes. Tu dis, waouh, c'est tellement beau. Puis, vous voyez? Mais la majorité des êtres humains sont inconscients du fait qu'ils sont sous le jugement divin, sous la colère de Dieu. C'est la réalité. L'humanité est comme ça. Et lorsque moi, comme chrétien, je suis en train de lire les journaux, puis je suis en train de lire l'actualité, puis là, à un moment donné, je commence à me dire, mais tableau, ce qui est Dieu, qu'est-ce qui se passe, il y a du mal qui se passe, puis tout ça. Je suis en train de réfléchir. Là, je vous le dis, là, quand vous commencez à réfléchir comme ça, là, vous êtes en train de réfléchir comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, puis qui dit, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas tout ça. Non. Les 200 jeunes filles étudiantes qui ont été enlevées, c'est au Nigeria, qui ont été enlevées, ça fait partie de la malédiction de Dieu parce que Dieu a livré l'homme à lui-même. Et donc, l'homme livré à lui-même se livre aux pires abominations. Lorsque je lis ça, je vois la colère de Dieu qui est à l'œuvre parce que Dieu livre l'homme à lui-même, l'homme qui rejette Dieu. D'accord? Et donc, le principe dominant du rapport actuel entre Dieu et les hommes, c'est une terre qui est maudite. Ça, c'est la réalité. Et tous les indices qu'on a de la bonté, de la grâce de Dieu, qui sont extraordinaires, dont jouissent autant les non-chrétiens que les chrétiens, ça fait partie de la grâce commune, ça fait partie des indices de la patience de Dieu envers l'humanité. Mais le monde qui va être juste sous... Qui va être préservé, qui va être libéré de la colère de Dieu. Essayez d'imaginer ce que ça va être. Lorsqu'on a tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable dans la vie, tout ça, c'est la grâce commune que Dieu laisse en dessous de sa colère. Imaginez un instant là, que Dieu enlève sa colère de ce monde-là, parce qu'on parle de gens qui sont en harmonie avec Dieu, qui sont tous réconciliés avec Dieu. On parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Imaginez ce que ça va être. Êtes-vous capable de le concevoir? Tout ce que ça va transformer. Ça va être fou, là. Comprenez, ça va être fou, là. Je veux dire, je vais lire le journal pour apprendre quelle nouvelle. Des actes de bonté, des actes de grâce, des choses incroyables. Je vais lire l'actualité céleste. Comprenez? Ça va être incroyable. Et donc, nous, on doit en avoir conscience de ça. Et trop facilement, le fait qu'on... On est avec des non-chrétiens, tout ça, c'est correct. On veut être en relation avec eux, on veut être en rapport avec eux, on veut se lier d'amitié avec eux. C'est super. Mais trop facilement, on arrête de regarder le monde, de regarder la terre comme Dieu la regarde. Puis on la regarde comme si on ne connaissait pas Dieu. Puis on oubliait ça. Puis là, on dit, mais que ça va mal hein, sur la terre. Ben oui, mais l'humanité a craché en pleine face de Dieu. Comment tu veux que ça aille bien? Je ne comprends pas, là. C'est quoi ta surprise? Tu connais-tu Jésus? Tu comprends-tu la croix? C'est juste normal que ça dérape complètement, cette affaire-là. Et nous, on doit l'avoir à l'esprit. On doit l'avoir à l'esprit parce que ça doit nous amener, l'apôtre Paul dit quoi? À prier pour tous les hommes. Prier pour le salut de tous les hommes. À avoir ce sentiment d'urgence de racheter le temps pour pouvoir faire connaître Jésus-Christ. Ça doit être là dans notre esprit. Je comprends qu'il y a quelque chose d'un peu intolérable dans ça. Si tes enfants ne sont pas au Seigneur, si ton père... Moi, j'ai de la parenté très, très proche, là, que je donnerais ma vie n'importe quand pour leur salut, n'importe quand, puis je ne dis pas ça légèrement. Et donc, je ne veux pas les regarder chaque moment en disant, « Ouais, mais ils sont sous la colère de Dieu. » Non, pas à chaque instant, mais je veux l'avoir à l'esprit parce que je veux être là pour eux. Vous comprenez? Telle est donc la situation de l'homme en dehors de l'Évangile, qu'il en soit conscient ou non. Ce qui régit en définitive sa vie, c'est la colère agissante de Dieu. Mais maintenant, dit Paul, le libre accès auprès de Dieu, le pardon et la paix sont offerts gratuitement à ceux qui, autrefois impies et ennemis de Dieu, ont désormais placé leur confiance en Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être une victime expiatoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La colère de Dieu présente et à venir a été apaisée par le sacrifice de Jésus-Christ. Romains 5, 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Je suis en train d'achever un livre super intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la septième priorité de Stephen Covey sur la gestion du temps puis tout ça. Puis c'est vraiment super stimulant. Puis le monsieur vient d'un arrière-plan chrétien, ça c'est clair. Lui dirait qu'il est chrétien. Puis c'est surprenant, là, c'est un livre qui a fait fureur dans le milieu des affaires, puis étudié à l'université. C'est des millions et des millions et des millions d'exemplaires de vendus. Puis c'est vraiment un classique dans ce domaine-là. Puis le monsieur parle de spiritualité, puis il parle de la parole, puis que lui, chaque matin, lorsqu'il se lève, il prend un temps dans les Écritures, puis il prend un temps dans la prière, puis tout ça. Donc, lui se définirait clairement comme un chrétien. Puis, à bien des égards, c'est un homme d'une grande sagesse. C'est clair dans comment il s'occupe de sa famille, ses enfants, tout ça. C'est super intéressant. Mais, à un certain moment donné, quand il commence à parler de spiritualité, oups, il commence à mettre toutes les différentes approches spirituelles sur le même pied d'égalité. Puis, il résume cet aspect-là de ce qu'est l'être humain, sa santé, son intelligence, ses émotions, sa spiritualité, comme différentes approches pour combler ce besoin-là. Voyez-vous? Et donc, cet homme-là, qui à bien des égards est extrêmement sage, a complètement perdu de vue lorsqu'il a prononcé, lorsqu'il a écrit ça. J'écrivais à un ami dernièrement qui m'avait recommandé le livre. Il dit, je pense que ça fait longtemps que tu l'as lu. Hein? Il y a un petit morceau que tu as oublié. Là. Il a complètement perdu de vue le fait qu'on était ennemis de Dieu et que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont toujours ennemis de Dieu. Et donc, dans son rapport avec les hommes, lorsqu'il les côtoie, il les salue, il veut les conseiller, il va vers eux, puis « Salut ». Il ne veut pas regarder la personne en se disant « Écoute, il y a une différence fondamentale entre toi et moi. C'est que moi, je ne suis plus sous la colère de Dieu, toi, tu es sous la colère de Dieu. » Puis je comprends, parce que Jésus est le meilleur exemple, il nous demande d'aller vers tout le monde, puis d'aimer tout le monde. Mais lui, lorsqu'il entre en rapport, il cherche tous les points communs. Puis là, il se dit « Mais toi aussi, tu es spirituel. » Voyez-vous? Et donc, n'importe quelle approche, tant que tu es spirituel, tant que tu considères ça. Mais l'élément directeur du rapport entre Dieu et les hommes actuellement, c'est le jugement qui repose sur l'humanité. Et ça, il le met de côté. Ça le rend super accessible. C'est sûr, sûr, sûr. Ça, j'imagine que s'il avait dit, soit dit en passant, tous mes conseils tombent à l'eau. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous êtes damné. C'est pas sûr qu'il aurait fait les mêmes ventes, là. Mais je ne sens pas du tout que c'est pour ça qu'il fait ça. Je sens que le monsieur a perdu de vue quelque chose de fondamental. D'accord? Alors, la propitiation est l'œuvre de Dieu lui-même. La doctrine de la propitiation veut précisément que Dieu ait tant aimé les objets de sa colère, les êtres humains, qu'il a donné son propre Fils afin que, par son sang, sa colère soit apaisée. Ce fut donc Christ qui dut affronter la colère pour que ceux que Dieu aimait échappent à cette colère et pour que l'amour accomplisse son dessein en transformant les enfants de la colère en enfants du bon plaisir de Dieu. Vous avez tout l'évangile qui est résumé là, d'accord? Je sais, vous connaissez tous ces choses-là. Ça doit être crystal clear dans votre esprit, d'accord? Ça doit être limpide, ça doit être là lorsque vous êtes en relation avec le monde. L'acte propitiatoire s'est trouvé accompli par la mort de Jésus-Christ. Et là, je vais aller à la dernière partie, la deuxième partie de ce paragraphe-là. Lorsque Paul écrit que Dieu a destiné Jésus à être une victime propitiatoire par son sang, c'est afin de bien montrer que ce qui a apaisé la colère de Dieu et nous a aussi rachetés de la mort, ce ne fut ni la vie de Jésus, ni son enseignement, ni sa perfection morale, ni sa fidélité envers son Père, mais son sang qui fut versé lorsqu'il mourut. D'accord? C'est un petit peu là que je pointais tout à l'heure lorsque je disais, vous allez jaser avec des gens, ils vont s'intéresser à Jésus, puis ils vont voir tous les autres beaux côtés de Jésus. Et ils sont là, c'est vrai. Jésus est le Fils qui a été fidèle alors que nous avons été fidèles. On va en parler tantôt dans le message, d'accord? Donc, oui, tous ces côtés-là, Jésus, tous ces enseignements, c'est de l'or. Mais ce qui nous sauve, ce qui a réconcilié Dieu avec l'humanité et ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, c'est son sang qui a été versé. Ça prenait ce sacrifice-là pour venir satisfaire à la justice de Dieu. La propitiation manifeste la justice de Dieu. Le spectacle public de la propitiation à la croix a été une manifestation publique non seulement de la miséricorde justificatrice de Dieu, mais également de sa justice parfaite qui en est le fondement. Et donc, lorsqu'on annonce l'Évangile à des gens, moi, personnellement, là, quand je suis avec des amis qui sont plus directs, ils ont tendance à trouver que je suis quelqu'un de très soft, très doux dans mon approche, puis je ne m'en vais pas vite à la croix, d'accord? Bon, ça, c'est moi. Ça, c'est mon approche à moi. Je vais défendre un peu les principes, l'inspiration des Écritures, tout ça, Dieu, je vais aller avec la grâce commune, des choses comme ça. J'y vais lentement. Mais je dois définitivement me rendre à l'endroit où les gens vont trouver soit effrayant, soit, excusez-moi d'être cru, mais dégueulasse, la croix, horrible. Je dois me rendre à cet endroit-là. Parce que c'est juste dans la mesure où ils vont saisir, comprendre, apprécier, pas dans le sens que c'est agréable, mais vraiment comprendre ce qui s'est passé là à la croix dans toute son horreur et dans toute sa beauté. C'est juste dans cette mesure-là qu'ils vont saisir la justice et l'amour de Dieu, la miséricorde et la sainteté de Dieu. Et donc, c'est bien si vous êtes en train de parler de l'Évangile avec quelqu'un, puis qu'à un moment donné, vous sentez comme un sentiment de dire, « Mais c'est bien terrible ce que tu me racontes là. C'est bien effrayant un Dieu comme ça qui va faire mourir son Fils. » À ce moment-là, je peux leur poser la question, « Mais tu as deux options. » Soit que ça fait tellement pas de sens que c'est pas vrai, ou soit que tu as quelque chose à comprendre sur ce que c'est le péché, mon ami, sur la sainteté de Dieu, puis sur le prix que ça coûte à Dieu de t'aimer. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi pour que ça te scandalise au lieu de t'émouvoir, te faire pleurer. Puis là, on va avoir des conversations, on va quitter la croix pour retourner vers des choses dans le monde qui les scandalise vraiment. Fait que les 200 jeunes filles qui ont été enlevées. Tout à l'heure, j'ai dit, mais il n'y a pas de surprise là. Ça va de soi. Dieu a livré l'homme à lui-même. Mais en même temps, c'est horrible. Moi, je prie, là, vous savez, je le dis souvent, hein, monsieur a beaucoup quelque chose. Là. Il n'y a pas des bonnes prières de ma part de ce temps-ci, ce monsieur-là. Okay? Si Dieu veut envoyer un ange, le frapper puis le tuer sur place, alléluia. Moi, je bénis l'Éternel. D'accord? Parce que c'est ça que j'attends. J'attends le jugement divin sur cet homme-là. Si Dieu veut lui faire. J'ai prié pour lui cette semaine, pour son salut. J'ai dit, Seigneur, si t'es pas pour le sauver, tue-le. Ça, c'est ma prière pour ce monsieur-là. D'accord? Parce que oui, c'est horrible ce qui se passe là. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais, dans ma conversation, dans ma discussion par rapport à la croix, lorsque la personne commence à vraiment être scandalisée par la croix, tout ça, je vais me promener de la croix à des événements semblables. Puis là, je vais poser la question, mais c'est quoi tu veux que Dieu fasse avec ce monsieur-là? Qu'il laisse vivre de sa prime vieillesse, puis tout va bien, mon copain, tu tapes ses fesses, puis viens-t'en au ciel, c'est ça? C'est quoi tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il passe par-dessus ça, comme si tout était cool? C'est une erreur de jeunesse? Non? Oui, madame. Je vais répéter. Oui, c'est ça. Oui. 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 C'est ça. Alors, c'est ça. Notre sœur a dit, mais. Oui, c'est ça. Alors, quand les gens sont choqués, alors c'est un monsieur qui a dit à madame que Dieu était un meurtrier parce que Dieu avait tué à la croix. Bien, je vous dirais, c'est quand les gens sont choqués par Dieu, personnellement, je trouve ça plus intéressant parler de l'Évangile avec eux que de parler avec des gens qui sont vraiment fortement indifférents. D'accord? Parce qu'à quelqu'un qui va me dire ça, je vais simplement lui dire, regarde, ça là, ce qui se passe là, c'est la plus grande et l'énigme, la plus grande énigme et l'énigme la plus importante que tu as à dénouer dans ta vie. Le jour où tu vas avoir compris ce qui s'est passé là, ta vie va être changée complètement, mon ami. Ton éternité va être changée. Tout est réglé. Tout est réglé quand tu auras saisi ce qui t'offense tellement là. Fait que c'est correct que les gens soient offensés par la croix. C'est correct. Ça prend ça pour qu'on puisse se rendre à la compréhension de la miséricorde. C'est qu'il voit la colère de Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, le salut des élus et la damnation des perdus. La rétribution vient, le châtiment tombe. Dieu est juste et justice est faite. C'est ce qui se passe à la croix, d'accord? L'amour rédempteur et la justice rétributive se sont, pour ainsi dire, rencontrés au calvaire, car c'est là que Dieu s'est montré juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit que le sacrifice de Jésus à la croix, sa résurrection, c'est ce qu'il y a de plus beau dans toute l'histoire de l'univers. C'est ça qu'il y a de plus beau. Tu n'as pas de tableau, tu n'as pas de toile. La naissance de mes deux enfants, c'était extraordinaire. Mais quasiment comme une publicité à TV à côté de la croix. Je veux dire, c'est beau, c'est la création, mais ce n'est pas le rachat. La conversion de mes enfants. Wouf! Ça, c'est quelque chose. Comprendre la propitiation biblique nous permet de saisir d'autres éléments importants de la parole de Dieu. Alors, commençons par le principe directeur de la vie de Jésus. Je m'en vais là. Simplement parce que le temps avance, je m'en vais au troisième paragraphe, ici le plus long paragraphe dans cette section, celui qui commence par « si nous remplaçons ». Si nous remplaçons tous ces faits, je m'excuse, dans la perspective de l'enseignement apostolique relatif à la propitiation, tout devient clair. Ne pouvons-nous pas penser, demande James Denny, que ces expériences d'effroi et d'abandon sont indissociablement liées au fait que lors de sa mort et de son angoisse à Gethsémané, lorsqu'il accepta cette mort comme la coupe que son père lui donnait à boire, Jésus se chargeait de tous les péchés du monde, acceptant d'être et étant effectivement compté au nombre des pécheurs. À ce moment-là, Jésus était fait péché. J'ai eu une discussion une fois avec un pasteur, qui discutait sur l'idée, je l'ai déjà cité à l'Église peut-être à deux ou trois reprises, mais lorsque Jésus s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce pasteur-là disait « écoute, c'est impossible que Dieu ait abandonné son Fils. C'est pas possible, c'est comme si la Trinité avait explosé. » Donc, je pense que Jésus est plutôt en train d'exprimer ce qu'il ressent que la réalité. Vous savez, on va vivre des expériences comme ça, comme être humain. Je vais te dire quelque chose, puis tu te sens rejeté, mais je n'étais pas en train de te rejeter. Je veux juste t'aider à grandir puis à voir quelque chose qui ne va pas dans ta vie, admettons. Mais toi, tu te sens rejeté. Jésus s'est senti abandonné, mais il n'aurait peut-être pas vraiment été abandonné. Puis je vous dis, on a débattu ensemble pendant une heure et demie au moins. Mais j'ai dit, mais je ne comprends pas comment tu défends l'Évangile. À la croix, Jésus a été fait péché. Il n'a pas péché, il a été fait péché. Comment est-ce qu'il peut y avoir communion entre le péché et Dieu? Je vous ai pensé à Uza. Vous vous rappelez Uza? Plein de bonnes intentions, qui s'en va attraper l'arche, qui va tomber, il est mort. Alors, comment est-ce qu'il peut y avoir communion entre le péché et Dieu? Jésus a été fait péché. C'est parce qu'il allait être fait péché, c'est parce qu'il allait subir le châtiment que Dieu réservait au péché que Jésus trembla à Gethsémané. Et c'est parce qu'il subissait effectivement ce châtiment qu'il se déclara sur la croix abandonné de Dieu. Maintenant, un élément, puis là, ça va peut-être être un petit peu plus nouveau pour vous dans votre réflexion. Ça va vous équiper aussi pour réfléchir puis jaser avec les gens. Toute la question du sort de ceux que Dieu rejette. Bien, M. Packer, moi je trouve ça super intéressant, nous propose la croix comme endroit pour comprendre c'est quoi être damné pour l'éternité. Il dit, lorsqu'on saisit ce que Jésus a vécu à la croix, on a une très bonne idée de ce que vont vivre ceux qui vont être damnés pour l'éternité. Ils vont vivre la croix perpétuellement. À perpétuité. Sur la croix, je suis au dernier paragraphe en bas de la page 4. Sur la croix, Dieu a châtié nos péchés en la personne de son Fils. Et Jésus a subi ce que méritaient nos forfaits, nos méfaits. C'est donc à la croix qu'il nous faut regarder pour voir comment Dieu punira finalement le péché des hommes. Que fera-t-il? Son action se résume en quelques mots. Privation absolue de tout bien. Sur la croix, Jésus a perdu tout ce qu'il possédait de bon auparavant. Il a perdu toute conscience de la présence et de l'amour de son Père, toute conscience du bien-être physique, mental, spirituel, toute joie qui lui venait de Dieu et des choses créées, tout secours et toute consolation qu'apporte l'amitié, tout cela lui a été retiré pour ne laisser subsister que la solitude, la douleur, le sentiment écrasant de la méchanceté et de la dureté des hommes et l'horreur de profondes ténèbres spirituelles. La douleur physique bien qu'importante, car la crucifixion demeure la forme d'exécution la plus cruelle que le monde ait jamais connue, ne représente pourtant qu'une infime partie des souffrances de Christ. Ses pires souffrances furent d'ordre spirituel et moral, et ce qui se passa en moins de 400 minutes représente une éternité d'atroces souffrances, atroces au point que chaque minute fut en elle-même une éternité. Ceux qui ont souffert dans leur esprit savent ce que peut représenter chaque minute de souffrance. Au calvaire, nous apprenons qu'au jour du jugement, Dieu ne laissera à l'homme rien de ce qu'il apprécie ou puisse apprécier, rien de ce qu'il peut appeler bon. Alors, des fois on entend des chansons païennes à la radio, puis les gens vont dire, moi, je veux rien savoir du ciel, je veux rien savoir de Dieu, je veux m'en aller en enfer, puis je vais être sur le party tout le temps. Mais ce que les gens ne saisissent pas, c'est que tout ce qu'ils trouvent de bon ici sur la terre, ça relève de la grâce commune. Ça relève de la patience de Dieu. Dieu nous laisse toutes ces bonnes choses-là. Quand tu es avec des amis, puis tu es en train de faire une bonne bouffe, puis juste en train de rire, puis là, on est, tu t'arrêtes, tu te dis, tableau qu'on est bien. Hein? C'est fou comme on a du bon temps. Ça relève juste de la patience de Dieu. Ça relève juste de la grâce de Dieu. Dieu donne, Dieu sème toutes ces affaires-là pour amener les gens à dire, oui, mais waouh, il y a un Dieu créateur derrière tout ça, c'est incroyable. Un Dieu qui a ordonné toutes choses pour qu'on arrive là, c'est incroyable. C.S. Lewis disait Dieu est très, très, très négligent avec les indices de sa connaissance. Il en a échappé partout, il en laisse tomber partout. Il est très traîneux. J'aimais ça, cette image-là, parce qu'en réalité, tu fais juste ouvrir les yeux et tu dis waouh, 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 waouh. Et les gens qui s'imaginent que sans Dieu pour l'éternité, ça va être plus cool parce que moi, je ne veux pas être un petit chrétien qui marche droit et qui n'a pas de l'air heureux et tu te le quittes. Tu ne réalises pas là, que le moindre plaisir que tu as ici sur la terre, ça relève de la grâce commune. Ça relève de la patience de Dieu. Tu veux comprendre ce qui t'attend pour l'éternité, va-t'en regarder la croix. Va-t'en regarder la croix. Tu as un homme qui était fort comme mille. Un homme qui était droit, qui craignait rien, qui comprenait la terre, qui comprenait les cieux, qui comprenait la vie, qui comprenait la mort, puis qui était plus fragile qu'un enfant sur cette croix-là. Il était plus rien, il était misérable. À ce moment-là, Jésus perd de vue le fait que 3 jours plus tard, il va ressusciter, parce qu'il expérimente le fait d'être maudit et frappé par son Père, d'être fait péché. Il ne peut même plus réfléchir en se disant, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un frère il y a quelque temps, puis il disait, oui, mais ça a quand même juste duré 3 jours. Il me semble que ce n'est pas si pire. À ce moment-là, là, Vous avez l'intelligence même qui est incapable de concevoir que dans 3 jours, c'est fini cette affaire. Et donc, lorsque vous pensez, lorsque vous parlez avec les gens de l'enfer, puis les gens vous disent, ouais, mais ça va être quoi? Bien, viens, on va tourner dans les Écritures. On va juste aller lire ce qui se passe sur la croix. Tu veux savoir ça va être quoi, là? Ça va être ça. Parce qu'un jour, tu vas mourir, tu vas te présenter devant Dieu, tu vas réaliser que c'est lui qui est la source des moindres plaisirs que tu trouves sur la terre. Parce que là, tu vas le voir en face, tu vas dire, c'était toi. Puis là, il va dire, salut, retire-toi de moi. Au moment où tu vas prendre conscience que tout ce qui t'a apporté du bonheur sur la terre venait de lui, il va dire, maintenant c'est fini pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu vas être crucifié éternellement. Il faut que je finisse le cours, je m'excuse, Gérard. Je dois terminer un petit peu plus tôt, on a la chorale ce matin. On va terminer sur cette pensée-là. Au bas de la page 5, quand on veut concevoir la gloire de Dieu, c'est aussi à la croix. C'est aussi dans l'acte de propitiation, dans la résurrection, bien sûr. C'est aussi à la croix que je vais saisir la gloire de Dieu. C'est aussi à cet endroit-là que je vais voir la manifestation de Dieu dans toute sa gloire. Et c'est pour ça que je me tue à vous répéter que ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, ce n'est pas un coucher de soleil. Ce n'est pas la naissance d'un enfant, ce n'est pas un mariage. Ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, time's up. Ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, c'est la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection. Parce que lorsque j'arrive dans l'Apocalypse, ce que je trouve sur le trône, c'est quoi? C'est l'agneau immolé. D'accord? Et donc, lorsque je veux parler de Dieu avec les gens, puis je veux leur faire connaître la beauté, la bonté de Dieu, je peux prendre bien, bien, bien des chemins pour me rendre jusque-là en étant sensible dans ma conversation avec eux, d'où ils viennent. Mais je vais devoir me rendre à cet endroit-là. Et c'est pour ça que mon ami dont je vous parle souvent, qui me dit, moi, je suis à moitié chrétien, tu sais, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas capable, Jésus, je suis capable. Oh, mais c'est parce que tu ne pourras jamais te rendre à la croix, mon ami. Si tu ne comprends pas le Dieu de l'Ancien Testament, attends, mais que je te parle de la croix, tu ne te rendras pas là. Puis si tu ne te rends pas là, tu ne connais pas Dieu. Tu n'as aucune idée qui est Dieu. Tu as juste une intuition de ce que Dieu peut être, c'est tout. Alors, la semaine prochaine, on parle justement de Jésus-Christ. On va terminer avec un mot de prière. Mais Père éternel, on veut t'adorer, Seigneur, ce matin. De rendre grâce pour le sacrifice de ton Fils sur cette croix. Qui est venu prendre des enfants de la colère. Et faire de nous des enfants de ton amour, Seigneur. Sois béni mon Père, sois béni Seigneur Jésus, éternel, sois glorifié de ce que tu nous as aimés jusqu'à nous poursuivre ainsi, jusqu'à donner ton Fils sur cette croix. Père, je te demande de toujours garder le phare, le flambeau de cette Église, de cette assemblée, bien clair et bien fermement ancré dans cette œuvre propitiatoire de ton Fils. Et je te demande, Père, de nous donner vraiment beaucoup d'intelligence et d'habileté pour parler de cette croix à ce monde qui ne veut pas entendre ce message parce qu'il le trouve scandaleux. Parce que ça ne cadre pas avec sa vision Père Noël de Dieu, sa compréhension fade de l'amour et l'absence totale de compréhension de ta sainteté, Seigneur. Rends-nous habiles, rends-nous sages, Seigneur. Équipe, Seigneur, notre intelligence, aide-nous à mettre ça en pratique, à parler de l'Évangile avec les gens souvent, afin, Seigneur, qu'on soit comme ces artisans que tu avais doués pour construire le tabernacle dans toute sa splendeur, Seigneur. L'œuvre que nous voulons laisser, c'est une prédication intelligente, sensible, juste, biblique de ton évangile, Seigneur, afin d'en amener quelques-uns de plus avec nous, Seigneur, dans l'éternité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.